Édouard, il est où, Édouard? Édouard voyage. Vous êtes sûr qu'il est parti pour le travail?
Oh, le pauvre.
Édouard voyage.
Voyage, tonton Édouard.
Allô? Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis en duplex, mais je suis avec vous, avec le studio et tous les amis qui sont là. Je suis dans les faubourgs de Johannesburg, Afrique du Sud. Je vais partir pour une scène de flingue. L'armurier est à côté, il va me passer un flingue. What is this gun, sir?
It's a Colt Walther P38 9mm.
Walther P38, je vais aller tirer dans le tas, les gars. Je vous rappelle, dans des meilleures conditions tout à l'heure, j'allume le volant. Il y a trois mecs avec des calages dans la voiture avec moi. C'est parti pour cette scène de cinéma. Très belle matinée, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, Edouard. Ça a l'air vraiment bien, sa vie.
C'est étonnant.
Bisous, bisous à Walter.
Il a dit j'allume le volant quand même.
J'allume le volant. Je prends une calage, je monte dans la voiture.
Vous moquez pas, ça se trouve, faut vraiment allumer le volant là-bas, je sais pas.
Edouard Berck est donc à Johannesburg aujourd'hui encore.
On dit Jobourg.
Thierry Paré, vous êtes là?
Je suis là. Et prêt.
Les infos.
François Fillon ou la stratégie du forcené. Le candidat de la droite a décidé de se maintenir coûte que coûte. Il a lui-même annoncé lors d'une conférence de presse hier sa convocation par les juges le 15 mars pour une éventuelle mise en examen dans ce qu'on appelle le Penelope Gate. Il n'envisage pas pour autant de renoncer. Hein, si ce n'est pas à la justice, alors ce sont peut-être ses amis politiques qui le décideront. Pour les centristes de l'UDI, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils ont décidé de suspendre leur participation à la campagne. En outre, les défections individuelles se multiplient. Bruno Le Maire a carrément annoncé qu'il quittait le staff du candidat et le député Pierre Lellouche demande lui à la fois son retrait mais aussi le report de l'élection présidentielle, ce qui a quand même peu de chances d'aboutir. Beaucoup de réactions au propos de François Fillon hier. Une candidature à l'élection présidentielle n'autorise pas à jeter la suspicion sur le travail des policiers et ses juges. Ça, c'est ce que déclare François Hollande. Benoît Hamon, le candidat socialiste, dénonce lui l'incroyable violence des propos de François Fillon. Autre réaction, celle de Florian Philippot. Tout cela sert Emmanuel Macron, selon le vice-président du FN. Emmanuel Macron, justement, le candidat du mouvement En Marche, qui doit détailler son programme aujourd'hui, était au salon de l'agriculture hier, où il a au passage reçu un œuf sur la tête. Il s'est déclaré opposé à toute trêve judiciaire pendant la présidentielle. Et puis réaction aussi de Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, regrette que l'obstination de François Fillon soit en train de stériliser une campagne où les affaires parasitent les enjeux de fond. Sachez, pour être complet, sans prétention aucune bien sûr, que l'équipe de campagne de François Fillon étudie la possibilité d'organiser un rassemblement de soutien aux candidats. Certains évoquent une marche dimanche au Trocadéro, donc à Paris, à laquelle seraient espérées des centaines de milliers de personnes. Airbnb, en quête de bonne conduite, accusée de concurrence déloyale par les hôteliers, la célèbre plateforme de location touristique est désormais disposée à limiter à 120 nuitées par an les logements qu'elle propose sur la capitale, donc sur Paris. Ceux qui connaissent Airbnb savent que cette limite est déjà inscrite dans la loi, mais qu'il n'y a pas de contrôle. La nouveauté, ce sera le blocage automatique du site dès que le seuil autorisé sera dépassé. Rebondissement dans l'affaire des disparus d'Orvault, 13 jours après la disparition mystérieuse de la famille 3Deck, et alors que l'enquête était au point mort, le pantalon et la carte vitale de Charlotte, la fille de la famille Troadec, ont été retrouvées dans un fossé par une joggeuse. Cette découverte a été faite près de Brest, autrement dit à 250 km environ du lieu d'habitation de la famille disparue. 9 buts encaissés en seulement 2 rencontres, ce n'est clairement pas la semaine de l'OM. Après s'être incliné 5-1 dimanche face au Paris Saint-Germain, Marseille s'est incliné 4-3 dans les prolongations hier soir face à Monaco en 8e de finale de la Coupe de France. Qualification également du PSG qui est allé s'imposer 2-0 sur le terrain de Niort. De Guingamp aussi, qualification, s'est imposé 2-1 sur le terrain de l'US Quevilly et puis d'Avranches. Avranches qui s'est imposé au tir au but face à Strasbourg. Dernier match aujourd'hui, il va opposer Bergerac à Lille. On connaît déjà l'affiche des quarts de finale de cette Coupe de France. Le tirage au sort a été effectué hier soir. Le PSG hérite d'un tirage plutôt favorable puisque, après Niort, le club affrontera un autre club de national, en l'occurrence Avranches, et ça va se passer à Avranches. Monaco, pour sa part, jouera contre le vainqueur du duel ce soir entre Bergerac et Lille. Angers recevra Bordeaux, choc 100% Ligue 1, et puis Guingamp se déplacera à Fréjus-Saint-Raphaël, et les matchs se dérouleront les 4 et 5 avril prochains.
Voilà pour les infos. Les petites nouveautés de l'émission aujourd'hui, donc Edouard n'est pas là, mais Atmen Khelif a un œuf rebondissant.
Oui, j'ai un œuf rebondissant que m'a donné ma fille, c'est un jouet, on le jette par terre, il rebondit.
On rappelle qu'elle a 28 ans.
Sa fille, oui, tout à fait. Mais c'est pour rendre hommage à Macron. Vous connaissez l'adage, qui vaut un bœuf, reçoit un œuf.
Ah, bravo. Il présente son programme aujourd'hui, paraît-il, Macron.
Ah, très bien. Ben, ça sera une omelette.
Mais dans le cadre de l'émission, qu'est-ce qu'on peut faire de cet œuf rebondissant? Est-ce que...
On peut le faire gagner ou le donner au petit enfant tout à l'heure qui dira le poème.
D'accord.
Ok, on va faire ça.
Bon, très bien.
Tu prends les jouets de ta fille pour donner aux autres enfants.
Non, mais est-ce qu'elle en a plein? C'est bon. Elle va pas me faire un œuf. Hein.
Est-ce qu'on ferait pas un petit club des connoisseurs de l'actualité
tout de suite,
dans 3 minutes après
les... 3 minutes après la musique. YouTube, quand même. On doit chauffer un peu la bouche quand même.
Oh. Plus près de toi.
7h, 9h,
Edouard Baird.
Je m'éclate, j'en peux plus.
Nova.
C'est nouveau sur Nova, c'était Hard Squad à l'instant avec Her Side Story. Il est quasiment 7h10. Edouard Baird est à Johannesburg ce matin, en tournage à Johannesburg, comme
oui,
il faut
oui,
dire.
On va pas le refaire.
C'est pas le mot, apparemment. J'ai du mal à mettre
ça
dans
la
tête.
Non, c'est ma faute. Je suis un peu maniaco.
Donc, on l'a eu au téléphone à 7h. Il s'apprêtait à entrer dans un village avec des guns et à tout défoncer. C'est ce qu'il nous a expliqué.
C'est un film, il faut le rappeler.
Ah oui, c'est ça.
C'est ce qu'on croit.
J'espère qu'en face, ils sont au courant que c'est un film.
On me signale qu'Edouard Baird est en liaison avec nous. Edouard,
je suis là.
Oui.
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 Je
oui.
suis là.
Oui. Pas trop là non plus, quand même.
Vous êtes presque là.
Et là, est-ce que vous entendez
Moins. Pas de fou.
On sent que vous êtes loin, quoi.
Ah, c'est pas de fou.
Pas de fou.
Alors racontez-moi un petit peu. Je veux de la presse. Je veux.
Bah nous, on veut du son, on veut de la voix, on veut des phrases. Hein.
Nous, on veut des phrases. On a payé pour que ça soit pas en morse, ça serait pas mal.
Les petites infos du matin qui commencent.
Avec un joli générique.
Ouais.
Marie Misset.
Alors, moi ce matin j'ai été étonnée de lire dans le Figaro qu'en Irlande du Nord ça va pas du tout et c'est une des conséquences du Brexit et c'est une conséquence d'autre chose aussi, d'un scandale aux subventions aux énergies renouvelables qui a conduit des exploitants à chauffer au bois des bâtiments vides pour toucher les subsides de l'État. Ça a déclenché une élection anticipée régionale et du coup se retrouve comme d'habitude depuis maintenant 20 ans, eh bien les unionistes et les républicains là en face de l'autre, sauf qu'ils nous disent dans le Figaro que ça commence à rechauffer sur cette histoire qu'on pensait un petit peu finie. On pensait qu'ils aspiraient tous à la paix, et bien c'est pas vraiment le cas. Pourtant, il y a deux nouvelles femmes qui sont au pouvoir, en tout cas à la tête de leur parti. Il y a une femme qui a 40 ans qui s'appelle Michelle O'Neill qui est du côté républicain. Elle, c'est la fille et la sœur d'anciens membres de l'IRA, mais elle-même a jamais fait de prison, ce qui est une grande nouveauté à la tête de ce parti. Et en face d'elle, elle a Arlene Foster qui, elle, a survécu à un assassinat de l'IRA quand elle était jeune. Donc on voit que dans l'histoire de ces deux femmes, il y a quand même encore l'IRA et l'histoire de l'Irlande du Nord qui sont très très présents. Et voilà, là, ces dernières semaines...
Donc sur les femmes, Marie, donc de votre point de vue, quand les femmes sont là, ça va mieux, c'est ça?
Non, justement, aucun rapport, Edouard.
Marine Le Pen, c'est ça, Marion Maréchal Le Pen...
Non, je crois qu'elle a dit aucun rapport,
j'ai,
en fait.
J'ai quand même l'impression que vous
m'écoutez peu. Non, mais je vois où vous l'emmenez, vous avez dit, je ne comprends pas que ça se passe mal, vu qu'il y a deux femmes au pouvoir.
Non, je ne comprends pas que ça se passe mal, Edouard, parce que ce n'est pas deux femmes.
À 10 000 km, les gens sont très choqués ici, à Johannesburg. Are you shocked by what you have heard? You are shocked, no? Are you shocked?
Yes, I'm shocked.
Voilà, les gens. Oh bah. vous voyez que je n'ai pas sorti.
Vous transformez mes propos, Edouard. Vous pervertissez mes propos.
Vous manipulez les gens, vous vous habillez en femme vous-même, donc vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit. Moi aussi, je m'habille en femme. Mais... Bah, attends, je vous laisse.
Mais je crois que Marie n'a pas terminé son
histoire.
Non,
en tout cas, ce que je disais, c'est que c'était plutôt des personnalités nouvelles, femmes, hommes, qui sont à la tête du parti, mais qu'elles sont toutes les deux touchées par l'histoire de l'Irlande du Nord et que les tensions reviennent fort avec le Brexit, avec l'ombre du Brexit qui est là entre les deux Irlandes. À Belfast.
Ensuite, le débat La femme est-elle l'avenir de l'homme aura lieu tout à l'heure.
Tout à l'heure, oui.
Jacques Brel, Jean Ferrat.
Jean Ferrat surtout. I'm shocked. Oui. Moi, pour moi, une petite info, François Bayrou, le président du Modem, a perdu son portable mardi soir dans un taxi.
Merde.
Voilà. Alors, je vais tenter une imitation. Il a appelé le commissariat et il a dit allô, c'est François Bayrou et j'ai perdu mon portable. Et vraiment.
Alors, on annule l'imitation.
Moi, d'accord, ok.
On l'a fait tort parce que ça
On non mais j'ai mal, j'ai pas assez bégayé. Et surtout le flic lui a répondu, et moi je suis la reine d'Angleterre, dans texto. Voilà, alors il
c'est
un
quand
peu...
même dingue qu'il tombe par hasard sur la reine d'Angleterre.
Et est-ce que c'était vrai que le flic était la reine d'Angleterre?
Non, pas, mais pas du tout. C'était la petite blague, le petit plus Nova. Ah. Alors il a un peu insisté.
Et vous avez compris mon trait d'esprit aussi.
Vous avez compris, je trouvais ça formidable.
Extraordinaire dans ma phrase.
Même en Afrique. Oui, refaites-le, refaites-le.
Oui, j'avais compris que le policier ne pouvait pas être à la fois agent de police dans un commissariat et reine d'Angleterre en Angleterre en emploi du temps, ça me semblait complètement impossible. Ma plaisanterie.
Ah mais moi j'avais pas compris, je pensais que c'était vraiment la reine d'Angleterre.
Le rire est là.
Le rire est franc, le rire est africain. Le rire est là.
C'est franco-africain, c'est entre l'Afrique du Sud et la France, on rit des mêmes choses et on est concerné
par
les mêmes.
On rit, c'est joie,
c'est langage universel, bien sûr.
Alors juste pour finir, je finis, il va à la préfecture, il se plaint, on fait une enquête, on ne retrouve que la coque dans le taxi.
La coque du téléphone, et non pas la coque.
Je fais du sud-ouest et j'insiste sur les hauts. Ça a toujours été mon défaut. La daube, maintenant, voilà, on dit la coque. Voilà.
Oui, dans maintenant, il n'y a pas de haut.
J'explique mon accent. Vous allez pas m'emmerder. Laissez-moi finir, ma truc. Et alors,
le rire de Tito, c'est le chronomètre. Quand c'est vraiment con, on entend le rire.
Exactement, le chronomètre. On voit toutes ses dents.
Oui, tu as tout compris.
Donc, je ne la finis pas, mon truc, non?
Si, il l'a retrouvé le téléphone.
On l'a retrouvé parce qu'ils ont fait une enquête. Ils l'ont retrouvé dans un sac d'un marin breton.
C'est pas vrai.
Voilà, et qui avait dit oh, mais il était tombé dans mon sac. Parce qu'il y avait beaucoup de numéros de téléphone dedans, celui de Macron, celui de Fillon, celui de Mélenchon, celui de Pénélope. Et donc, il a rendu, il l'a retrouvé, tout va bien, il aura son téléphone pour retourner dans le Béarn. Voilà.
Je n'ai pas aimé quand vous avez fait croire
que
Bérou avait le téléphone de Pénélope Fillon. J'ai trouvé ça dégueulasse de votre part. Je trouve que vous laissiez croire des choses, vous essayez de manipuler l'information.
C'était histoire de faire un peu d'humour, mais apparemment, ça passe pas. Voilà, c'est
ça. Je suis toujours avec mon armurier sud-africain.
Oui. Tirez-lui dans le pied.
Is the gun ready now? The gun is ready, it's hot, it's ready to fire. Ok, le revolver est prêt à tirer. What does the gun we have on the stage? Je lui demande quel autre flingue il y a.
It's a Colt Walther P38 9mm.
And other one?
We've got AK-47s, we've got R5.
On est bien, oui. C'est Nelson Montfort là ou quoi? Parce que traduction, français.
Écoutez, j'y retourne. Il y a d'autres infos, mais
oui, on finit, nous.
Si, il y a une petite info. 10 à 30% des élèves d'école primaire ont du mal à écrire à la main. C'est dans le Figaro. Et il y a plusieurs études françaises, mais pas que. Aussi au Québec, en Israël, aux Pays-Bas. Et une des raisons, c'est qu'ils tiennent mal leur stylo. Ils inclinent pas la feuille comme il faut. Et puis, ils suivent pas les lignes. Voilà. Donc, il y a trop de photocopies. Ils écrivent aussi de plus en plus en lettres capitales et plus en écriture liée comme c'est l'écriture cursive. Mm-hmm. C'est dans le Figaro. C'est moi.
De vous à moi.
Oui, vous.
Que tout fout le camp.
Oui, je pense que tout fout le camp. Et ça commence comme ça, et puis on ne sait pas jusqu'où ça va.
C'était mieux avant.
Est-ce que le monde que nous avons connu ne s'est pas délité dans l'écriture automatique, les lol, les smileys,
je pense que c'est
les MDR et les PTDR.
C'est l'autocomplétion qui nous tue, je pense. Voilà. C'est quand on écrit quelque chose et puis qu'on voit que ça s'écrit tout seul derrière nous.
C'est ça dans le dictionnaire pendant que vous continuez à parler.
On continue parce qu'il y a Christophe quand même qui a une petite otite. On peut le dire, Christophe
ou pas? Oui, j'entends rien.
Bah voilà, mais vous pouvez faire quand même votre petite info. Il n'entend rien.
J'entends rien, Edouard. Donc je t'entends pas, mais ça a l'air vraiment bien ce qui se passe pour toi. Moi, j'ai la palme de l'info la moins intéressante. Voilà. Au Japon.
Ça a déjà eu lieu, ça.
Non, je t'assure qu'on peut faire pire. Parce qu'au Japon, ils sont en train d'ouvrir des mayonnaise café. Voilà. C'est tous les plats qui sont à base de mayonnaise. Alors, c'est la mayonnaise de marque Kwempi, hein. Voilà. Le fabricant le plus reconnu par les Nippons. Et leur slogan, tous les plats ont meilleur goût avec la mayo Kwempi. Donc le café de Tokyo sera ouvert en mars, tandis que celui de Nagoya sera inauguré en avril. Au menu, du poulet mariné dans la mayo, des omelettes, des sandwichs, on s'en fout. Voilà.
Bah, c'est super.
C'est clair, on s'en tape.
Salut, bisous.
Bisous,
Edouard.
Hé, Edouard. Tu vas mettre un tamis.
La chanteuse sud-africaine Myriam Makeba avec Beware Van Verd à l'instant. Edouard Baird est en Afrique du Sud aujourd'hui pour un tournage, donc on l'a par intermittence au téléphone et parfois
mieux. On trouve ça mieux, nous.
Parfois par valise satellite, tu préfères, toi?
Je disais, on trouve ça mieux que c'est nous qui choisissons quand est-ce qu'il intervient.
Oui, alors ça se passe pas exactement comme ça, je t'expliquerai.
Non.
Dans un instant, on va retrouver Thomas Ribi pour ses fameuses chroniques mystères. De quoi va-t-il parler? On ne sait pas encore, ce sera juste après cette petite pub.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi, non là pardon, mais je suis pressée là.
À 7h21, Atmen Khelif n'a toujours pas utilisé son œuf rebondissant.
Oui.
Beaucoup d'attentes.
Oui voilà, mais c'est un œuf mystère. Très bonne transition pour peut-être...
La chronique mystère.
Voilà.
La chronique mystère de Thomas Ribi, fameuse désormais. Et tous les jeudis, bonjour Thomas.
Bonjour. Bon déjà, je suis hyper ému que déjà ma chronique ait un nom. Oui. Qu'elle soit mystérieuse, je trouve ça génial. J'ai toujours voulu être mystérieux dans ma vie et j'ai jamais été mystérieux.
C'est trop franc.
Et en plus, c'est fameux. J'ai toujours voulu être fameux. Pour l'instant, c'était un échec aussi. Donc, c'est voilà. Un grand jour pour moi. Tout... Il faut bien admettre qu'il est très, très tôt du matin, mais je suis hyper heureux.
Bon, voilà. Tout arrive d'un coup, manifestement. Le mystère va se lever petit à petit au fur et à mesure où vous allez nous raconter cette histoire qui se passe au Guatemala, une histoire de bateau.
Exactement. C'est l'histoire d'un bateau qui a fait beaucoup de bruit en tout début de semaine. Le bateau s'appelle l'Adélaïde. Il a accosté donc au Guatemala lundi dernier. Mais il n'a pas pu rester dans le pays bien longtemps. Très vite, les membres d'équipage ont été arrêtés puis expulsés. Le gouvernement guatémaltèque a hurlé au scandale, ainsi que de nombreuses associations chrétiennes. Mais alors, pourquoi, mystère, pourquoi ce bateau a-t-il à ce point dérangé dans ce petit pays d'Amérique centrale? C'est là qu'est le mystère. Mmh. Eh bien, parce que c'est un bateau clinique sur lequel des femmes peuvent venir avorter. Il est affrété par une association hollandaise qui s'appelle Women on Waves, des femmes sur les vagues en français. C'est une association qui a été créée en 1999 et qui s'est fait connaître avec ce concept de bateau clinique. Le principe est simple. Le bateau accoste dans un pays où l'IVG est interdite. Il recueille des femmes qui souhaitent avorter, puis il s'en va naviguer dans les eaux internationales, c'est-à-dire à 12 miles minimum de la côte. Dans ces eaux internationales, ce n'est pas la législation du pays qui s'applique, mais celle du pays d'origine du bateau. Donc là, en l'occurrence, c'est la loi des Pays-Bas qui s'applique. Et la loi des Pays-Bas en matière d'avortement est assez libérale. Donc sur le bateau, eh bien, les médecins peuvent pratiquer des avortements. Donc ils pratiquent des avortements médicamenteux. Ils gardent les femmes à bord pendant quelques heures. Puis le bateau rentre au port et les femmes qui ont avorté rentrent chez elles. C'est une méthode que l'association a appliquée en Europe d'abord. Dans les pays les plus rigides en termes d'IVG, la Pologne, l'Irlande, le Portugal et l'Espagne, puis au Maroc en 2012, et puis enfin, cette semaine, au Guatemala. Sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme prévu. Les Guatémaltèques étaient au courant de l'arrivée du bateau, les policiers attendaient le bateau de pied ferme, ils ont empêché quiconque de s'en approcher, aucune femme n'a pu monter à bord du bateau, donc personne n'a pu se faire avorter. Petit rappel intéressant, l'Amérique latine, c'est le pire continent, un des pires continents en matière de droit à l'avortement. L'avortement est interdit partout, il n'y a que deux exceptions, c'est Cuba et la ville autonome de Mexico. Sinon, impossible d'avorter dans tous ces pays. En général, l'avortement n'est autorisé que lorsque la vie de la mère est en danger. Il y a les champions du monde de l'interdiction de l'avortement. Les pires pays même dans le monde en matière d'avortement, c'est le Chili et le Salvador. Alors là, c'est carrément inscrit dans la Constitution qu'il est interdit d'avorter dans tous les cas. Même si la santé de l'enfant est en danger, même en cas de viol et même en cas de danger pour la santé de la mère. Ça veut dire que si une femme risque de mourir parce qu'elle est enceinte, eh bien elle est obligée de garder son enfant, elle est obligée de mourir, sinon elle va en prison pour meurtre. Donc par exemple, au Salvador, il y a des femmes qui sont en prison pour meurtre parce qu'elles ont avorté pendant des années. Enfin, c'est une situation complètement folle. Autre petit rappel, je pense, important, l'Amérique latine, c'est un pays ultra-catholique, l'Église catholique est omniprésente, ultra-puissante, et dans tous ces pays, c'est souvent l'Église qui a poussé pour faire passer ces lois.
Et en l'occurrence, le Guatemala n'est pas une exception, si ?
Et le Guatemala n'est pas une exception, pays catholique, Église très puissante, et avortement interdit. Mais donc, on a bien vu qu'au Guatemala, ça a été un échec, cette opération. Mais on s'est rendu compte que les autres opérations du bateau de cette association hollandaise ont également été des échecs. Ça a commencé en Irlande en 2001. À ce moment-là, c'était des associations chrétiennes, là encore, mais aux Pays-Bas, qui avaient fait pression sur leur propre gouvernement pour que les médecins du bateau risquent des peines de prison à leur retour. Donc là aussi, il n'y avait pas eu d'avortement possible. Ensuite, au Portugal en 2004, cette fois-ci, le gouvernement portugais avait envoyé un navire de guerre, carrément, pour empêcher le bateau d'approcher des côtes. Donc là encore, pas d'avortement possible. Au Maroc en 2012, le bateau de l'association avait été interdit d'accoster par les autorités, pas d'avortement possible, et donc même chose cette semaine au Guatemala.
Donc ça marche moyen, ce bateau qui s'installe dans les zones.
Les gens sont au courant apparemment. Bah voilà,
le truc c'est que les gens sont au courant. Ouais, ouais. Donc on a l'impression que ça marche moyen, mais déjà dans deux pays ça a marché. Ils avaient vraiment pu pratiquer des avortements, c'était en Espagne et en Pologne. Mais surtout, l'association recherche surtout du bruit. Elle veut faire du bruit, elle veut faire du scandale, elle veut faire une couverture médiatique. Et finalement, là où ce n'est pas un échec, c'est que partout où le bateau est passé, il y a eu des débats sur l'avortement qui ont été ouverts. Et dans certains cas, ça a eu un gros impact politique. Les deux meilleurs exemples, c'est le Portugal en 2004 et l'Espagne en 2008. Dans ces deux pays, ces années-là, l'avortement n'était pas autorisé, sauf dans des cas extrêmes de maladie ou de danger pour la santé de la mère. Eh bien, à chaque fois que le bateau a accosté, ça a provoqué des débats sur l'avortement dans le pays et c'est devenu des thèmes de campagne. Et l'avortement est devenu autorisé au Portugal en 2007 et en Espagne en 2010. En revanche, pour l'instant, rien, ni en Pologne, ni en Irlande, ni au Maroc, les autres cibles de l'association. Et je rappelle que dans l'Union européenne, il y a encore 5 pays dans lesquels l'IVG n'est pas autorisé, l'Irlande et la Pologne donc, mais aussi Andorre, Chypre et Malte. Je ne veux pas donner de conseils, mais Malte, ce serait peut-être une bonne idée de future destination pour l'association. C'est le seul pays européen où l'avortement est strictement interdit dans tous les cas, sous peine de 3 ans de prison pour la femme qui avorte et pour le médecin.
Et puis, en plus, il y a la mer qui est pas loin.
Il y a la mer qui est juste à côté.
Donc le bateau peut arriver. Voilà.
Exactement.
Et donc ça nous évite les deux jeux de mots. Elle perd les os et les femmes et les enfants d'abord.
Voilà, on aurait pu éviter les deux jeux de mots.
On aurait pu les éviter. D'ailleurs, on n'était pas loin de les éviter.
On va s'arrêter là-dessus
quand même.
Merci beaucoup, Thomas Ribille.
Avec plaisir.
Je pense que nous sommes en présence d'une reprise. C'était Eleanor Rigby à l'instant par Eric Saint-Laurent. Alors tout le monde s'active là dans le studio.
C'est
Tito
très bien
est en train
fait,
de,
la musique,
d'accorder sa guitare. La musique, c'est très bien fait.
Non, parce que, non, parce qu'on aurait cru que c'était de l'anglais. Moi, j'ai cru que c'était de l'anglais depuis tout à l'heure.
Mais c'est parce que ça vous rappelle peut-être un titre original.
Ah, c'est ça.
C'est ça, le concept de la reprise.
Prise,
Thierry Paré pour ses plus grandes reprises des infos.
Bravo. L'équipe de campagne de François Fillon étudie la possibilité d'organiser un rassemblement de soutien aux candidats. Certains évoquent une marche dimanche au Trocadéro à Paris, donc, à laquelle seraient espérées des centaines de milliers de personnes. Abandonner une course pour un pilote, ce n'est pas naturel. Déclaration de François Fillon aujourd'hui dans les colonnes du Midi Libre. Prise d'otage de la présidentielle diront certains, stratégie du forcené diront d'autres. François Fillon a décidé de se maintenir coûte que coûte. Le candidat a lui-même annoncé hier lors d'une conférence de presse sa convocation par les juges le 15 mars pour une éventuelle mise en examen. Dans ce que l'on appelle le Penelope Gate, une obstination qui ne fait pas l'unanimité. Pour les centristes de l'UDI, c'est la goutte d'eau de trop. Ils ont décidé de suspendre leur participation à la campagne. En outre, les défections individuelles se multiplient. Bruno Le Maire a carrément annoncé qu'il quittait le staff du candidat. Le député Pierre Lellouche demande à la fois son retrait et puis aussi le report de l'élection présidentielle, ce qu'il a quand même peu de chances d'obtenir. Beaucoup de réactions au propos de François Fillon. Une candidature à l'élection présidentielle n'autorise pas à jeter la suspicion sur le travail des policiers et des juges. C'est ce que déclare François Hollande. Benoît Hamon dénonce l'incroyable violence des propos de François Fillon. Autre réaction, celle de Florian Philippot. Tout cela sert Emmanuel Macron. Selon le vice-président du FN, Emmanuel Macron, justement, le candidat du mouvement En Marche, doit détailler son programme aujourd'hui. Il veut mettre, par exemple, fin aux régimes spéciaux de retraite. Il était hier au Salon de l'agriculture où il a au passage reçu un œuf sur la tête et il s'est déclaré opposé à toute trêve judiciaire pendant la présidentielle. Et puis réaction aussi de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France Insoumise regrette que l'obstination de François Fillon soit en train de stériliser une campagne où les affaires parasitent les enjeux de fond. L'armée syrienne est entrée dans Palmyre hier soir. L'État islamique contrôle la cité antique inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Les djihadistes de l'État islamique avaient été chassés de cette ville il y a pile un an. Mais ils l'avaient reprise au mois de décembre dernier. L'État islamique a saccagé et détruit d'importantes structures de cette ville. Une semaine à peine de débat aura suffi. Le Parlement philippin vient de rétablir la peine de mort qui était suspendue depuis 2006. Un vote qui intervient alors que le très controversé président du pays, Ricardo Duterte, a annoncé vouloir relancer la guerre anti-drogue. Le texte adopté par les députés rend d'ailleurs passible de la peine capitale la production et le trafic de drogue, à l'exception de la simple possession. Airbnb en quête de bonne conduite, accusé de concurrence déloyale par les hôteliers, la célèbre plateforme de location touristique est désormais disposée à limiter à 120 nuitées par an les logements qu'elle propose sur Paris. Ceux qui connaissent Airbnb savent que cette limite est déjà inscrite dans la loi, mais qu'il n'y a aucun contrôle. La nouveauté, eh bien, ce sera le blocage automatique du site dès que le seuil autorisé sera dépassé. Rebondissement dans l'affaire des disparus d'Orvault. 13 jours après la disparition mystérieuse de cette famille Troadec et alors que l'enquête était au point mort, le pantalon et la carte vitale de Charlotte, la fille de la famille Troadec, ont été trouvés dans un fossé par une joggeuse, découverte faite près de Brest, donc à 250 km environ du lieu d'habitation de la famille disparue. Au terme d'un match un peu fou, Monaco s'est imposé 4-3 hier soir dans les prolongations à Marseille, 8e de finale de la Coupe de France de football. Le PSG de son côté est allé s'imposer 2-0 sur le terrain de Niort. Guingamp a gagné 2-1 sur le terrain de l'US Quevilly et Avranches s'est imposé au tir au but face à Strasbourg. Dernier match aujourd'hui, il va opposer Bergerac à Lille à 21h. On connaît l'affiche des quarts de finale de cette Coupe de France, le PSG se déplacera à Avranches. Monaco jouera contre le vainqueur du match Bergerac-Lille. Angers recevra Bordeaux et Guingamp se déplacera sur le terrain de Fréjus-Saint-Raphaël. Les matchs se dérouleront les 4 et 5 avril prochains.
C'était bien précis tout ça.
Beaucoup d'appels d'auditeurs au standard qui aimeraient savoir s'il faut mettre des bonnets ou des grosses chaussettes aujourd'hui ou des petits maillots. La météo ?
Aujourd'hui, c'est petit maillot. Ma liberté, la 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 la. Aujourd'hui, le soleil est de retour partout dans toute la France. À Agen, les températures seront de 7 à 16. Clermont-Ferrand, de 4 à 14. À Dreux, de 5 à 11. À Marseille, de 7 à 18. Montpellier, de 7 à 19. Poitiers, de 7 à 13. Saint-Étienne, de 3 à 11. À Vienne, entre 3 et 14. À Berlin, entre 7 et 2. À Bordeaux, entre 2 et 16. La 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 et la 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 la.
Merci pour la météo. On retrouve Édouard Baird en Afrique du Sud. Oui.
Mon cher Armel, ici votre correspondant à Johannesburg, Afrique du Sud. Je suis là sur ce tournage de cinéma où personne n'a été payé depuis 6 mois. La colère monte avec Jérôme Le Banner, le grand champion de kickboxing, qu'on appelle aussi Géronimo, l'un des plus grands champions européens qui tourne avec nous. Jérôme, donne-nous tes conseils santé le matin. Jérôme, toi qui es quand même une sorte d'athlète, tu peux manger 200 billets pendant que moi je mange une asperge. Alors donne-moi quelques conseils pour nous, pour les auditeurs ce matin, pour être en forme.
Alors déjà le matin, on va commencer par un jus, un extracteur de jus à base de grenade. Voilà, ça c'est le primordial. Et après, on va commencer par des abdominaux, des pompes et des air squats. C'est-à-dire faire des flexions de jambes à remonter assez vite. Voilà. Et comme ça, et surtout, pas oublier de bien respirer et de bien s'hydrater. En même temps, on peut aller faire des vies entre deux séances. Voilà.
Merci, Jérôme. Au niveau alimentaire, Jérôme, tu es quand même un bon gamin, quand même. Tu vois, qu'est-ce que tu bouffes, toi?
Ah, je suis beaucoup végétarien. Moi. Beaucoup de jus de fruits, beaucoup de légumes à base d'extracteurs. Et un peu crudiveur, voilà.
Dis-moi, c'est quoi ces histoires d'omelettes sans jaune d'œuf? C'est un des trucs qui me coule plus cafard dans les entraînements d'athlètes.
Ah bah ça porte goût, c'est uniquement de la protéine, et puis on essaie d'éliminer le gras, le jaune. Voilà.
Pour l'auditeur Nova qui serait là ce matin et qui n'aurait pas fait de pompe depuis 1982, qu'est-ce qu'il lui dit?
Ah, je lui dis là d'aller faire un bilan sanguin.
Voilà, c'était la correspondance sud-africaine. Salut les gars, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, merci pour l'info. On peut faire des omelettes sans jaune d'œuf.
Non mais normalement, c'est le jaune qu'il y a. Moi je me rappelle, dans Rocky, il boit que du jaune, il boit pas le blanc, non, normalement.
Il boit tout dans Rocky.
Ouais.
Dans Rocky, il fait de la boxe, il fait pas du kickboxing. C'est pas
ah
pas
ouais, d'accord. Ah. Okay. Ah. Bon, merci.
Jack.
À tout à l'heure. Oui, bonjour. Moi je suis pas du tout dans les omelettes. J'ai pris le tram aujourd'hui, puis je me suis arrêté devant la cité universitaire. Là, donc dans le sud, il y a le parc Montsouris en face, il y a des belles arcades. Je suis rentré et j'ai rencontré un livreur, quelqu'un qui allait livrer pour une conférence un sous-marin dans une petite caisse. Puis je l'ai abandonné parce que les sous-marins, ça ne m'intéresse pas trop.
Une maquette, en fait.
Une maquette, ouais. Voilà, il y a une conférence sur je ne sais pas quoi, c'est des armes, je ne sais pas. Et puis après, je me suis baladé, puis à la machine à café, j'ai rencontré Maïli, qui est avec moi, qui est là et qui est en train de visiter aussi les lieux LR.
Oui.
Bonjour, ah, Maïli.
Bonjour, monsieur.
Bonjour. Elle est en train de se balader parce qu'elle pensait que c'était... C'est un beau monument historique.
D'accord. Oui, je me suis dit que ça ressemblait à un musée, donc j'ai voulu voir un petit peu. Et je me suis dit que c'était bien d'étudier dans un endroit aussi beau. Voilà.
Et c'est notre fac.
Dans votre voix, il y a de la timidité, il y a le goût de la beauté, il y a un petit sourire. Qu'est-ce qui s'est passé en vous réveillant ce matin?
Bah, il me met un micro. Enfin, j'ai rencontré un monsieur qui m'a mis un micro en pleine face. Donc là, c'est un peu bizarre.
Vous voulez dire que dans la vie normale, vous n'êtes pas du tout pareil que dans la vie d'interviewé. Donc les interviewés ne sont pas des gens comme les autres.
Bah en quelques... vous pouvez répéter?
Un interviewé n'est pas quelqu'un comme un autre.
Bah on change devant un micro, je pense, quand même.
Pour moi, vous êtes
alors,
pareil.
Essayez de faire la... Comment vous êtes hors micro, parlez-nous.
Hors micro? Bah vous n'allez pas m'entendre.
Oh, bravo.
Bien joué,
Maïli.
On est dans la beauté pure, on est dans la beauté pure.
Ça, sublime.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit qu'on était dans la beauté pure. Alors, qu'est-ce qui vous touche ici, là, quand on est dans ce grand hall qui résonne?
Bah, tout, le fait de, qu'on peut regarder en haut, il y a toujours quelque chose à regarder, autour, tout autour de nous, les petites médailles, on a l'impression que les gens, ils ont toujours gagné des choses ici. Je sais pas, je trouve ça bien.
Vous avez des médailles, personnellement, madame?
Bah, peut-être bientôt, oui.
Dans quel domaine?
La psychologie.
C'est vrai qu'il n'y a pas de... c'est pas médaillé, la psychologie. C'est dommage, c'est beau de porter la légion de la psychologie au revers de...
Bah oui, ça peut être utile.
La légion de la névrose, la légion...
De la psychopathie, comme ça, voilà.
On vous embrasse très fort.
Bah merci monsieur.
On aura la médaille du bisou. On va on va continuer. Bah nous on est un peu tous les deux tout seuls ici, donc on visite, on erre.
Bah profitez.
Oui, il faut aller au pavillon japonais, il y a des grosses fêtes le soir.
Oui, mais c'est le matin à peine là.
Mais pour eux c'est le soir, je pense.
Bon, on va explorer.
Jack, on vous retrouve tout à l'heure. Édouard Baird, qu'est-ce que... Oui, Édouard.
Armel, juste avant de rendre l'antenne, je suis avec la réalisatrice du film, Carole Rocher, qui m'a dit, tu continues à faire ton émission pendant les prises. Rassurez-la, Carole, vous avez l'impression que je ne suis pas concentré?
Pas du tout. Non, je suis très inquiète. Allô?
Carole, oui, c'est Atmen. Carole, c'est Atmen.
Vous êtes en train de gâcher notre film.
Bon, je vous laisse, à tout à l'heure, les gars.
Bon courage.
À tout à l'heure. Salut, Atmen.
Salut, à très vite, c'est génial.
Nova. De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
Bah, j'y vais à pied, j'habite à côté.
La chanteuse Camille sur Nova avec Paris, Paris. Alors je vous rassure, hein, à la fin de la chanson, elle décide que finalement Paris lui manque et elle revient, ça finit très bien. On va rester quelques minutes à Paris avec votre invité Thomas.
Absolument, alors si Camille décide finalement de revoir Paris, on s'en saisit parce que c'est aussi le titre « Revoir Paris » du livre de Claude Evenot qui était avec nous ce matin. Bonjour Claude Evenot.
Bonsoir.
Oui, non, mais oui, il fait encore...
Il
fait encore un peu nuit. Revoir Paris d'ailleurs, c'est une série de chapitres qui sont autant de voyages dans Paris, dans cette ville que manifestement vous adorez. C'est un livre qui est paru aux éditions Christian Bourgois. Et c'est à la fois, c'est un guide, c'est comme ça qu'il est présenté par l'éditeur, mais en fait c'est un voyage dans Paris, un voyage autobiographique aussi à travers les années.
Oui, c'est en fait, je suis né à Paris, donc c'est une ville que j'ai jamais pu quitter pour aller vivre ailleurs. J'ai beaucoup voyagé, mais j'ai jamais pu me décider à franchir seulement le périphérique. Hein. Je suis incapable de vivre ailleurs, peut-être dans une grande capitale du genre New York, Londres ou Karachi, je ne sais pas, mais certainement pas ailleurs en France qu'à Paris. Donc j'y suis revenu, mais pas revenu parce que je revenais de très loin, ce qui m'est arrivé parfois, mais là, je suis revenu sur un Paris que j'ai connu pour en voir les traces et pour voir si les transformations sont positives ou négatives, ce qui est variable d'un coin à l'autre de Paris.
Oui,
on peut avoir
une
idée mesurée du présent.
Positif ou négatif, parce que c'est un livre sensible, vous êtes éminemment présent, c'est un livre à la première personne, qu'on ne se méprenne pas, ce n'est pas un guide touristique, mais par contre, on peut s'en servir pour voyager dans Paris avec vous. On a l'impression d'une expérience, ce qu'on appelle en réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on voit le paysage actuel avec vous, et puis vous ajoutez des images qui sont celles soit de l'histoire, soit de votre histoire.
Oui, mais cette idée de réalité augmentée qui est venue avec l'apparition des technologies numériques, en fait, c'est un fonctionnement mental qui existe depuis bien avant. C'est-à-dire que n'importe quel promeneur pratique la réalité augmentée en amenant à la fois ses souvenirs personnels, sa culture qui est singulière d'un individu à l'autre, etc., le souvenir de la grande histoire, ses apprentissages scolaires. Il y a d'un seul coup quelque chose qui est convoqué dans tous les sens par ce que l'on voit au moment où on est en train de marcher sur un trottoir. C'est effectivement, ça correspond à la définition, vous avez raison d'évoquer la réalité augmentée, mais c'est quelque chose qui est une des jouissances du promeneur, en fait. C'est pas une mécanique,
c'est pas une technologie spécifique.
Non, c'est pas une technologie, c'est une jubilation du cerveau, voilà, et des jambes.
Ah oui,
Très important, les gens.
On entend Jack. Alors, Jack.
Bonjour.
Bah, rebonjour, Jack. Oui, ça, c'est un livre, quand on l'a eu entre les mains, évidemment, on a pensé à ce que vous faites tous les matins dans Plus Près de Toi. C'est une balade où là, la réalité augmentée, elle est augmentée par vos rencontres en quelques heures.
Ah oui, et puis là, alors je reconnais très bien la jubilation et l'imaginaire qu'on peut avoir quand on marche. C'est en permanence. Par exemple, moi, j'aime bien imaginer ce qui se passe derrière une fenêtre allumée. Ou alors l'été, quand les fenêtres sont ouvertes, les petites bribes de conversation qu'on entend. Donc, qu'est-ce qui se produit à l'intérieur dans cet espace privé, alors que nous, on est dans l'espace public, dans la rue, quoi.
Mais c'est ça, c'est Claude Évenoux, la jubilation du marcheur aussi qu'on voit.
Oui,
c'est
aussi, je comprends très bien ce qu'il vient de dire, parce que c'est une jubilation de voyeur qu'on peut avoir aussi quand on est dans le métro aérien et qu'on essaye de deviner de manière fugace quelles sont les vies qui sont derrière les fenêtres allumées le soir, ou même les fenêtres entrouvertes, comme il vient de le signaler. Mais il y a des points de vue extrêmement variés dans la ville qui permettent une curiosité passionnée pour la vie des autres. Que ce soit du voyeurisme au sens le plus classique du mot, ou que ce soit simplement une curiosité, un appétit pour la vie ensemble. Quoi.
Il y a quelques figures récurrentes dans ce livre, dans Revoir Paris, Claude Évenoux. Il y a Zazie dans le métro, qui est le personnage de Raymond Queneau, et du film de Louis Malle, qui arrive de temps en temps comme ça.
Oui, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas que ça, il y a énormément de films qui sont cités dans le livre, parce que mon apprentissage de la ville, il n'a pas seulement été le fait d'une enfance dans Paris, mais aussi une jeunesse de cinéphile. C'est-à-dire que j'ai passé toutes les années 60 à aller tous les jours au cinéma, et un peu aussi dans les années 70. Si bien que tout se superpose. J'habitais pas loin justement de l'église qui est dans le film de Louis Malle.
Et Saint-Vincent de Paul, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui. Et donc je voyais Zazie tout le temps. J'habitais avec Zazie, moi, pendant ces années-là. C'était vraiment assez extraordinaire. Et ailleurs, on pourra citer d'autres films.
Quand vous parlez à un moment donné du quartier de la Gare de l'Est, donc toujours à Paris, vous parlez dans ce quartier-là, à l'époque, d'un malaise urbain qui faisait écho à une époque à votre propre malaise. En fait, on voit la ville en fonction de soi aussi. En fonction de son état même, non ?
Oui, on va plutôt chercher les quartiers qui peuvent se mettre éventuellement au diapason de son état d'esprit. Hein. Alors ça peut être une période de bonheur ou une période de grand malaise, etc. Donc c'est vrai que la Gare de l'Est qui a beaucoup changé, mais à l'époque, elle était plutôt glauque. C'était vraiment assez pénible comme ambiance. Pas dangereux, mais extrêmement pénible. Et dans des moments de pointe de névrose, on va appeler ça comme ça, hein, puisque tout à l'heure on parlait avec une psychologue, j'aimais bien traîner là où je m'enfonçais dans ma décrépitude. Quoi, voilà. C'est exactement ce qu'on appelle la psychogéographie. Quoi.
Oui, est-ce que vous avez l'impression, vous, quand l'espace influence vraiment l'état dans lequel on est ? Ça veut dire un grand boulevard très large, on prend un pas très ample et puis une petite ruelle va tout de suite jouer sur notre physique et notre démarche, notre rythme.
Oui, c'est sûr qu'il y a une influence, c'est extrêmement difficile à qualifier et à mesurer. On a beaucoup rêvé pendant les années 70 qu'on allait pouvoir regarder ça de manière théorique et scientifique et du coup en déduire des façons de faire la ville ou de faire l'architecture. Mais on s'est aperçu que c'était absolument pas manipulable. Simplement, on reconnaît, c'est en général la pratique de l'écriture qui permet de transcrire de manière assez précise, quelles sont les relations réciproques qu'il peut y avoir entre l'espace qui nous entoure et l'état intérieur. Mais c'est pas une science, hein, c'est une dérive.
Est-ce que finalement, Claude Évenoux, l'écriture de ce livre en particulier vous permet d'ajouter une nouvelle vision ? C'est-à-dire qu'on a la vision, votre vision de la ville, il y a la description présente, il y a l'histoire, la vôtre, celle que vous connaissez de Paris. Est-ce que ce livre finalement ajoute aujourd'hui une couche à cette connaissance de la ville ou à cette vision de la ville quand vous baladez une fois que ce livre est paru ?
Oui, parce que c'est le propre de la littérature et puis c'est aussi le propre de la manière dont j'ai procédé. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire un premier voyage sans savoir quelle serait la suite. C'est en écrivant, excusez-moi, et c'est en écrivant ce voyage que j'ai eu l'idée du suivant, et etc., etc. J'ai cheminé de manière intérieure, on va dire, en même temps que je cheminais au hasard d'un voyage à l'autre comme celui-là. L'écriture s'est faite de la première à la dernière ligne de cette sorte-là. Voilà. Donc, je me suis enrichi d'une certaine manière, c'est vrai.
Atmen,
oui, est-ce que ça vous a affecté les propos de Donald Trump à propos de Paris, disant que Paris n'était plus Paris, comme ses amis le disaient, ou lui, à ce moment-là ?
Je risque pas d'être affecté par un imbécile pareil, ça c'est sûr que non.
C'est ce que je voulais entendre.
On verra à quel moment il faudra lui foutre sur la gueule, c'est tout.
C'était pour conclure, c'est magnifique.
Claude Evenot, Revoir Paris, c'est paru chez Christian Bourgois, merci à vous.
Dans un instant, on parlera de Revoir Marseille, puis Revoir Pau, puis évidemment le livre Revoir Limoges. Les enfants, on est encore à l'antenne, un petit peu de... Bon, ok. Édouard Baird n'est pas là, enfin il est là, il est pas là, il est au téléphone, il est à Johannesburg pour un tournage, on le retrouvera probablement d'ici la fin de l'émission. Un peu de pub, on se retrouve après.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. Non, là, pardon, mais je suis pressée, là.
Sur Nova, Ken Booth avec Let Your Teardrops Fall à l'instant. Chris Menet a une façon de porter le casque très intéressante, c'est-à-dire qu'il ne le porte pas sur les oreilles.
Non, je le porte sur une oreille seulement, parce que j'ai une oreille qui ne marche pas ce matin.
D'accord, vous l'avez déconnectée pour la matinée.
Oui, voilà. C'est... Donc m'envoyez pas si j'entends pas tout ce que vous dites. Mila, t'as l'air en pleine forme.
Oui.
Oui, t'es souriante, ça fait plaisir. Non, c'est vrai, ça fait plaisir. T'as quel âge, Mila?
8 ans.
8 ans, d'accord. On est en quelle classe à 8 ans?
CE2.
CE2, ah oui, d'accord. Très bien. Et donc ce matin, tu vas nous dire un poème. C'est quoi?
Ça s'appelle Pour devenir une sorcière.
Pour devenir une sorcière. D'accord, c'est un programme en fait. Et tu l'as appris à l'école?
Oui.
D'accord.
On apprend ça à l'école? Comment devenir une sorcière?
C'est bizarre. C'est ta maîtresse? C'est un choix de la maîtresse?
Oui.
D'accord.
Il faut écouter le contenu, on va voir. Attendez.
Oui. On débriefera après là-dessus.
Je vais mettre un petit jingle.
Oui.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Il t'a plu le jingle? Pas mal, hein? Alors vas-y, on t'écoute, Mila. Comment devenir une sorcière? Je sais pas.
Pour devenir une sorcière, à l'école des sorcières, on apprend les mauvaises manières. D'abord, ne jamais dire pardon, être méchant et polisson, s'amuser de la peur des gens, puis détester tous les enfants. À l'école des sorcières, on joue dehors dans les cimetières. D'abord, à saut de crapaud ou bien au jeu des gros mots. Puis, on s'habille de noir et on ne sort que le soir. À l'école des sorcières, on retient des formules entières. D'abord, des mots très rigolos comme Chilbernic et Carlingo, puis de vraies formules magiques. Et là, il faut que l'on s'applique. Jacqueline Moreau.
Bravo. Bien, bravo.
Bravo.
Chilbernic, ça veut dire quoi?
Oui.
Chilbernic, qu'est-ce que ça veut dire à ton avis?
Moi, je sais pas vraiment en fait.
T'aimerais bien être une sorcière ou pas?
Pas trop.
Pas trop? Il y avait un plaisir quand même de le dire.
Très belle voix, on était sur très bon délier des syllabes et des consonnes, sans profondeur, magnifique.
Qui a déjà été une sorcière ici?
Moi, plusieurs fois.
Alors c'était comment, Chris?
Écoute, c'était agréable. Ouais. Pas obligé de dire pardon, pas obligé de s'excuser.
Moi, ma femme au réveil tous les matins.
Elle va être contente si elle écoute.
Non, elle n'écoute pas, elle va bosser. Il serait temps.
Eh bien, merci Mila et bravo. C'était formidable ce poème. Tu vas à l'école là?
Non, je pense. En fait, je vais retourner à la maison parce que.
Retourner te coucher.
Je me sentais pas très bien hier et aujourd'hui. Donc...
Oh la chance!
Mais je vois que t'as un joli petit balai qui t'attend pour t'amener directement à l'école. Par contre, papa, tu vas à pied.
C'est vrai que tu vas très très mal. Hein.
Oui, ça se voit. T'es vraiment pas bien là.
Non, il faut vraiment que. Tu veux qu'on appelle quelqu'un? J'espère que la maîtresse n'écoute pas.
J'espère, oui.
Merci
Mila.
Et encore bravo.
C'est le journal?
Ouais, il est 8h, les infos.
Promettant de ne pas modifier l'âge de départ à la retraite et de ne pas baisser le niveau des pensions, Emmanuel Macron souhaite toutefois mettre en place un système universel de retraite. Autrement dit, il souhaite mettre fin aux régimes spéciaux. Le candidat du mouvement En Marche va enfin dévoiler son programme ce jeudi. Il entend par exemple interdire les parlementaires d'exercer des activités de conseil. Il entend aussi suspendre le versement des allocations chômage après le refus de plus de 2 offres qualifiées de décentes. Il envisage également de créer 10 000 postes de policiers, 4 à 5 000 postes d'enseignants. Il promet de diviser par 2 le nombre d'élèves par classe au CP et en CE1. Il envisage aussi une prime de 3 000 euros net par an pour les enseignants en zone prioritaire. Voilà, ce sont quelques exemples, hein, il y en a beaucoup d'autres. Les détails donc dans la journée. Le contenu, c'est ce dont aimerait sans doute bien parler François Fillon, plus soucieux aujourd'hui de ne pas couler. Le candidat de la droite a décidé de se maintenir coûte que coûte. Il a lui-même annoncé hier lors d'une conférence de presse sa convocation par les juge le 15 mars pour une éventuelle mise en examen dans ce que l'on appelle désormais le Penelope Gate. une obstination qui ne fait pas l'unanimité. Pour les centristes de l'UDI, c'est la goutte d'eau de trop. Ils ont décidé de suspendre leur participation à la campagne. En outre, les défections individuelles se multiplient. Bruno Le Maire a carrément annoncé qu'il quittait le staff du candidat. Et le député Pierre Lellouche a demandé lui à la fois son retrait mais aussi le report de l'élection présidentielle, ce qu'il a quand même peu de chances d'obtenir. L'équipe de campagne de François Fillon étudie la possibilité d'organiser par ailleurs un rassemblement de soutien aux candidats. Certains évoquent une marche dimanche au Trocadéro à Paris. Et puis quand vous êtes assistant parlementaire, vous pouvez être payé à tricoter. Ce n'est pas moi qui parle ainsi, mais Florence Portelli, déclaration pour le moins maladroite de la porte-parole de François Fillon. L'armée syrienne est entrée dans Palmyre hier soir. L'État islamique contrôle la cité antique inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Les djihadistes de l'État islamique avaient été chassés de cette ville il y a pile un an. Ils l'avaient reprise au mois de décembre dernier. L'État islamique a saccagé et détruit d'importantes structures de cette cité antique. Une semaine à peine de débat aura suffi. Le Parlement philippin vient de rétablir la peine de mort qui était suspendue depuis 2006. Un vote qui intervient alors que le très controversé président du pays, Ricardo Duterte, a annoncé vouloir relancer la guerre anti-drogue. L'alcool en sachet s'est terminé en Tanzanie. Alors vous l'apprenez peut-être, mais en Tanzanie, on trouvait jusqu'à mardi de l'alcool en sachet.
C'est dommage.
Des sachets en plastique de 50 millilitres. Un sujet sensible et très important.
C'est marrant parce que tout le monde s'affaire au studio depuis le début de cette information.
Est-ce qu'on peut nous expliquer ce que... Non, pas du tout.
Eh bien, c'est des petits sachets transparents en plastique, enfin blanc souvent. Et voilà, 50 millilitres d'alcool à l'intérieur. C'est un drame parce qu'en fait, tu le mets dans la poche et il y en a plein dans les écoles parce que les enfants consomment ça dans certains endroits plus que du soda. Et donc, tu le glisses dans le cartable, voilà, tranquillement. Et il y a aussi un problème environnemental parce qu'après, ils les jettent n'importe où, sur le trottoir, dans la rue, dans les égouts. Les terrains vagues, etc. Donc c'est un problème. Le gouvernement de la Tanzanie avait pris une décision il y a un an d'interdire ces sachets. Il fallait que ça rentre en vigueur. C'est entré en vigueur hier. Voilà.
C'est-à-dire ça enlève la bouteille. Ils vont remettre la bouteille.
C'est des petits sachets comme des trucs de compote pour les enfants.
Non, voilà, exactement ça. On a compris, je pense.
Ouais. L'armée syrienne, je vous en ai parlé. Airbnb, enquête de bonne conduite, accusée de concurrence déloyale par les hôteliers. La célèbre plateforme de location touristique est désormais disposée à limiter à 120 nuitées par an les logements qu'elle propose sur Paris. Alors ceux qui connaissent Airbnb savent que cette limite est déjà inscrite dans la loi et qu'il n'y a pas de contrôle. La nouveauté, ce sera le blocage automatique du site dès que le seuil autorisé sera dépassé. Un rebondissement dans l'affaire des disparus d'Orvault. 13 jours après la disparition mystérieuse de la famille Troadec, et alors que l'enquête était au point mort, le pantalon et la carte vitale de Charlotte, la fille de la famille Troadec, ont été retrouvés dans un fossé par une joggeuse. Cette découverte a été faite près de Brest, à 250 km environ du lieu d'habitation de la famille disparue. Au terme d'un match un peu fou, Monaco s'est imposé 4-3 hier soir dans les prolongations à Marseille, en 8e de finale de la Coupe de France de football. Le PSG s'est qualifié en s'imposant 2-0 sur le terrain de Niort. Qualification aussi de Guingamp face à l'US Quevilly, 2-1. Et d'Avranches, c'est la surprise, qui s'est imposée au tir au but face à Strasbourg. Dernier match aujourd'hui, il va opposer Bergerac à Lille.
Merci Thierry, prochaines infos à 8h30, sauf si Tito veut ajouter une information, ça peut arriver.
Alors je vais juste vous parler vite fait du salon de l'agriculture pour terminer, il n'y a pas que des gros animaux, il n'y a pas que des fromages et des petits ponches. J'ai croisé aussi un aquarium avec des poissons, alors le monsieur s'appelle Marc Togbé, et Marc Togbé élève des poissons en Côte d'Ivoire. Ce poisson s'appelle le mâchoiron. Alors le mâchoiron est un poisson, ils sont très malins là-bas, comme ils ont fait des élevages, et pour nourrir les poissons, ils les nourrissent avec des insectes. Comme il y a beaucoup d'insectes en Afrique, donc à la saison des pluies, ils les ramassent, ils en font de la poussière, ils en font des petits granulés et jettent ça au poisson. Le poisson mange les insectes et après l'homme mange le poisson. Donc la chaîne alimentaire est respectée et bravo parce que nourrir des poissons et des insectes pour que l'humain puisse manger du poisson derrière, c'est super malin.
Ouais, et ça fait comme des crackers belins, c'est comme l'apéro quoi.
Ça fait comme les crackers belins. Et là, comme c'est la Côte d'Ivoire, ils font aussi avec le chocolat pour pouvoir faire au poisson d'avril le chocolat.
Ah, quelle info.
Édouard. Il est où, Edouard ?
Edouard
voyage.
Vous
êtes sûr qu'il est parti pour le travail ?
Oh, le
pauvre. Edouard voyage.
Voyage, tonton Edouard.
Edouard Baird est en Afrique du Sud, à Johannesburg, pour un tournage. Alors, j'ai pas bien compris le concept de tournage. Je sais pas ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est quoi ce métier d'acteur exactement, oui. Edmund Kelly, vous qui avez.
Alors Edouard Baird, oui. Tout le monde le sait, fait du bénévolat à Nova.
Bien sûr.
À part une place de parking à son nom, des tickets resto et deux compiles Nova qu'il a par an. Édouard Baird est acteur.
Mais alors, c'est quoi acteur exactement? Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est
alors,
quoi,
la, quoi la vraie définition d'acteur d'après Marlon Brando, c'est, oui, c'est un acteur, c'est quelqu'un que si on parle pas de lui, ça l'intéresse pas.
Ah, voilà, c'est ça.
C'est pas la meilleure chose qu'il ait dite, franchement.
C'est quelqu'un qui joue des textes, qui l'apprend, qui pense, qui dit et qui incarne des personnages dans des films, dans des pièces de théâtre et dans des textes. Voilà.
Je ne comprends vraiment pas. La pub.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
Qu'est-ce que je dois te dire? Mais qu'est-ce que je fais là?
Sur 9h, on écoutait Gaïka avec le titre PMVD. Je signale que Annie El-Khatib sera en live ici en fin d'émission. Donc, dans le Grand Café Nova, tout à l'heure, il y a beaucoup de monde attendu pour ce petit
live.
Sous
la verrerie, verrière.
Sous la verrerie. Une nouvelle pièce ici. Alors moi, j'essaye toujours de comprendre ce qu'est le métier d'acteur, hein, puisque bon, Édouard Baird n'est pas là ce matin. Il est en train de tourner un film en Afrique du Sud. Il fait l'acteur, je ne comprends rien. Est-ce qu'il est au téléphone? On me fait... Eugénie, qu'est-ce que...
Oui.
C'est lui qui est là ?
Je viens de m'annoncer que Katmen et Christophe Ménet avaient prévu quelque chose. Je crains le pire, donc je reste à l'antenne et on en parle tout de suite après.
Tout de suite après ce petit jingle.
Merci.
Autre genre de sport, la traversée du salon de l'agriculture.
Salon de l'agriculture.
Salon de l'agriculture.
Vas-y les gars, n'ayez pas peur.
Dans le cadre du salon de l'agriculture, hier matin, on était avec Aldébaran, une vache. Et aujourd'hui, dans ce cadre-là, toujours d'un jour une vache, nous avons la chance d'avoir dans le studio une périgourdine, pinoir, pure race. Bonjour Bibiane.
Bonjour.
Ça va, le voyage n'a pas été trop dur?
Non, ça a été très bien, impeccable.
Est-ce qu'on vous a bien bichonné pour ce concours?
Oui, on s'est occupé de moi, on m'a brossé, on m'a nettoyé les cornes.
On vous a brossé comment? Dans le sens du poil?
Toujours.
On vous a frotté les pies?
Oui.
On vous a tressé à l'arrière la queue, comme on fait d'habitude?
Voilà, exactement. C'est... Voilà.
Alors comme ça, pour un petit peu la télé, il paraît que vous êtes un petit peu susceptible sur des expressions à l'emporte-pièce qui vous font du tort à vous.
Et je ne supporte pas ça, oui.
Ça vous énerve. Bon, j'ai des exemples comme moron vache, par exemple, vous n'aimez pas.
Voilà, je ne supporte pas.
Espèce de peau de vache non plus.
Je ne peux pas.
C'est vachement bien, on m'a dit.
Je vais vraiment quitter le studio si vous continuez. Donc...
Oh la vache, ça vous aimez pas.
Attention.
Tiens, il pleut comme vache qui pisse.
Voilà, ok.
Non mais attendez, ne partez pas là.
Non, s'il vous plaît. Vraiment, j'ai vraiment envie de quitter le studio.
Oui.
Oui.
Oui, bonsoir, je suis auditeur de Radio Nova.
Oui, c'est vous êtes le seul en Afrique.
Oui, c'est moi qui vous écoute. Dites-moi, j'ai écouté le sketch Un jour une vache. J'ai trouvé la vache bien, j'ai cru.
Merci.
J'ai vu la situation, j'ai vu les prés, j'ai vu ce goût pour l'herbe, j'ai vu vraiment un animal, j'ai vu une vie d'animal, ça m'a intéressé.
Merci.
C'est pour l'intervieweur, je n'y ai pas cru. Je n'ai pas cru dans la situation.
C'était le contraire, m'aurait étonné.
Je n'ai pas compris comment ils se connaissaient, pourquoi est-ce que la vache acceptait de parler à ce type-là, si on était avant la présentation au salon de l'agriculture, si c'était en attente d'une visite d'un homme politique. Je n'ai pas vu la situation, je n'ai pas vu le rapport, je n'ai pas vu ce qui les liait. Voilà.
Je suis d'accord avec Edouard.
Un bon moment. Je suis passé sur RTL.
Ah ben,
merci.
C'était une fiction.
Merci, cher auditeur. On va maintenant prendre Édouard Baird qui nous appelle. Bonjour, Édouard.
Oui, bonjour. Bah, écoutez, on est toujours là. Je vais shooter. C'est parti.
Vous allez faire quoi?
Il va shooter, Tirek.
Mon camarade congolais qui joue. Comment, cher ami, comment se passe le tournage?
Oh, le tournage va bien, très bien. Moi, je joue le docteur Chibi et il est tout nouvel. C'est bien, en tout cas.
Ouais, c'est le docteur Chibi qui est là, qui va mourir dans cette scène. Vous assistez à un homme qui va mourir. Et c'est la magie du cinéma. Il est joyeux et on peut mourir 15 fois au cinéma. Et pour mourir 15 fois, il faut avoir raté les 14 premières morts. C'est la seule façon de mourir une 15e fois.
C'est toi qui le tue, on est vraiment.
Non, moi je tire, je loupe ma cible et je vais crever aussi aujourd'hui, je suis désolé.
Ah non, c'est une triste nouvelle.
À tout à l'heure.
Et tu reviens quand?
Je suis avec... stand-by, redis, attends, je vais attendre au micro, écoutez les trucs, c'est stand-by again. Voilà, stand-by, ça veut dire attention, on va y aller. Et là tout le monde me regarde du genre, mais tu vas arrêter de téléphoner.
Édouard.
Personne ne comprend.
Tu vas raccrocher,
oui, Édouard, tu m'entends?
Attendez, je me fous des hirs dans les oreilles parce que est-ce que vous voulez m'entendre tirer en direct ou pas? Je laisse le téléphone.
Bah oui, évidemment. Oui.
Alors là, vous allez rester pendant la prise. Attendez, attention. Ok, you can go, you can say action if you want. Attention, je reste jusqu'au bout.
Restez avec moi, restez avec moi.
On est là.
Ils vont vous donner le Walther P38 et vous allez entendre tirer. Donc, il y a 5 coups de feu, il va y avoir. La voiture s'avance au milieu d'un village, un ancien village minier, et je vais tirer 5 fois sur Thermal Jingle. Attention. Are you ready? Non, il y a un autre ready. Donc... Ah, attention. OK, running. Attends, je pose. Si le son est trop mauvais, vous ne gardez pas à l'antenne parce que je pose le téléphone dans la voiture.
Maintenant, gardez-le.
Are you ready, moi?
Pour la prise.
Attention, vous allez entendre l'action. Vous êtes en direct sur un tournage de cinéma à Johannesburg, Afrique du Sud. Un homme à flingue. Cet homme, c'est Bébert, c'est votre camarade. Il est là. Bébert, pas mort. Attention. Est-ce que c'est prêt? Rolling, ça veut dire ça tourne, la caméra tourne. C'est très beau. On est en direct. Un an avant la sortie du film, vous assistez à un tournage à la radio. C'est un reportage cut-cut. Ah bah dis donc, bravo, cut, c'est l'équivalent de couper. C'est pas cut-cut la poule.
Oui.
C'est cut-cut. Non, ok. Keep going, on continue, ils ne coûteront jamais. Je ne sais pas tout ce que ça veut dire. Voilà, tournage international, toutes les langues sont pratiquées. Attention, action !
Le son est bon, hein ?
Oui, et il tourne.
Oui.
Ah, et on entend les coups de feu.
Il a frappé deux galets les uns contre les autres. Ouais. C'est pas des coups de feu, ça.
C'est des pistolets à bouchons.
Non, mais est-ce que le son est lointain? Mais on a entendu les coups de feu.
Ouais, oui, non,
moi, je les ai entendus, oui, Thomas. En tout cas, toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je les ai entendus.
Moi, depuis lundi, je ne le crois pas. Je pense qu'il est dans la pièce d'à côté.
Il est à Dunkerque, à mon avis.
Ouais, c'est possible.
Bon, Gorillaz n'est pas loin non plus. On va écouter ça. Et puis, dans un instant, il y aura la revue de presse de Marie Lucet. This morning, you've got time for a hot home-cooked breakfast. Delicious and piping hot in only 3 microwave minutes. Sur Nova, c'était Gorillaz et De La Soul. À l'instant, Superfast Jellyfish. Marie a vécu des heures difficiles ce matin.
Oh oui, Armel.
Elle avait quasiment terminé sa revue de presse quand, soudain, une coupure de courant plongea la rédaction dans le noir.
On a une explication ou pas pour la coupure?
C'est du sabotage, probablement. Tu t'en es sorti quand même?
On va voir, vous seul serez juge.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Marie.
Bonjour.
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 Alors avant de rentrer dans le vif du sujet qui s'appelle Loriot, c'est un assassinat politique, phrase de François Fillon hier pendant sa conférence de presse, je pense qu'il est bon de s'arrêter sur un article à charge du Parisien dont le titre dit « N'achetez pas votre jambon beurre à Montbéliard ». Terrible affaire pour les boulangers de Montbéliard qui certes ont peut-être augmenté un petit peu déraisonnablement le prix de leur jambon beurre mais qui ne méritent pas à mon avis telle bronca. Et puis qu'est-ce qu'on fait quand on habite à Montbéliard? Est-ce qu'on doit aller acheter son jambon beurre à Toulouse? Voilà, c'était mon parti pris du jour. Mais revenons à nos Fillons qui, bien entendu, font la une dans tous les journaux ce matin. Le forcené de la Sarthe, titre Libération. Fillon déterminé, la droite en plein doute, écrit Les Échos. OM, une coupe trop pleine, c'est la une de L'Équipe. François Fillon prend en otage la présidentielle pour l'Humanité et François Fillon accuse les juges pour La Croix, l'appel au peuple. Titre contre eux, Le Figaro.
Il y a donc un intrus dans cette liste de titres.
Ou pas. OM, la coupe est pleine, ouais, vous jugez. Tous reviennent, en tout cas sur son très court et attendu discours. La Croix regrette qu'il charge tant la justice, estime qu'ainsi il affaiblit la République, c'est le sens de l'édito. Sur les 5 points que François Fillon soulève, La Croix rappelle que c'est l'habitude, par exemple, du parquet financier d'aller très vite, comme avec les Panama Papers ou le Footleaks. Ses avocats, par exemple, qui ont saisi la cour d'appel et n'ont pas été entendus, selon François Fillon. Et pour cause, répond La Croix, tant que la procédure n'a pas commencé. Les avocats ne peuvent pas le faire. Que si l'affaire va vite, la décision n'était de toute façon pas évidente pour les juges, dit encore La Croix, placés dans une situation très inconfortable, car s'ils avaient entendu après le 15 mars, ils auraient encore plus interféré avec la campagne présidentielle. Et enfin, que la trêve judiciaire en période électorale existe certes dans la coutume pour les procès, mais pas pour les investigations. Le journal catholique regrette quand même que les procès verbaux aient fuité dans la presse, mais estime que la plupart des déclarations de François Fillon restent sujettes à caution. Chez Libé, on est beaucoup plus radical. L'inhabituelle célérité du parquet financier intox, une enquête à charge intox, les cinq intox de François Fillon. Tandis que dans le Figaro, le son de cloche est différent. Dans son édito, Alexis Brézet estime que François Fillon a bien raison de ne pas se retirer, même s'il avait dit le contraire en janvier. Je me retirerai en cas de mise en examen, parce qu'il a eu tort de le dire et surtout parce que, toujours sous la plume d'Alexis Brézet, cette mise en examen est un coup de force des juges. François Fillon tient donc bon face aux juges. C'est le titre de la deuxième page du Figaro, qui insiste également sur la manifestation pour le soutenir que le candidat a appelé de ses voeux au Trocadéro pour faire un petit coucou historique à la manifestation pour Charles de Gaulle de 1968. Manifestation pour laquelle Romain Gary avait d'ailleurs reculé, persuadé qu'il serait le seul à soutenir le président. Il avait été très déçu quand il avait vu qu'il y avait des milliers de personnes sur la place. Il était donc rentré chez lui. Le combat n'en valait plus la peine, et ça, il le raconte dans son livre Chien blanc. Dans Libération, un de ses soutiens de François Fillon rappelle quand même que ceci n'est pas une manifestation contre les juges, mais pour le candidat. C'est salutaire. Et puis dans Le Monde, on ne décortique pas le discours de François Fillon, mais on publie une tribune de Denis Salas, essayiste et magistrat, qui estime qu'on trouve chez le candidat républicain tous les traits culturels du mépris du droit. Et contre l'ambiance latente qui règne dans les journaux aujourd'hui, qui dit que la démocratie est en déréliction, que la République est abîmée, selon Lacroix, il affirme, lui, que ce ne sont pas les juges et les médias qui persécutent François Fillon, mais que c'est la démocratie qui a avancé sans qu'on la voie. Cette affaire Fillon, poursuit-il, cache une mutation de la société démocratique, et selon lui, une partie de la classe politique n'a pas encore mesuré que le droit n'est plus seulement dans la loi, que c'est aussi une arme dans les mains des citoyens, et qu'à leur service, ils ont des juges indépendants et une presse capable de les entendre et de faire entendre leur voix. Peut-être, mais même dans la presse ce matin, Denis Salas, publié par Le Monde, semble un peu seul.
La revue de presse de Marie Misset, merci beaucoup. Toujours pas d'utilisation de cet œuf rebondissant depuis le début de l'émission.
Si, mais on l'a entendu quand même.
On l'a entendu
il
tomber.
Est un peu tombé. Voilà.
C'est l'œuf de Macron.
Voilà. Atmen Khelif est venu avec un œuf rebondissant pour enrichir l'émission ce matin.
Il faut aussi du visuel pour nous.
Jack est dans la rue.
Mais moi, j'ai continué ma pérégrination dans le parc Montsouris, qui est vachement bien. Et j'ai rencontré Malik. Alors Malik, lui, il vient de déposer sa femme au RER. Et puis, il était en train de marcher. Puis, il me dit, mais je travaille. Faites quoi, Malik?
J'écris. J'écris des articles sur la politique, en fait.
Dans quoi? Dans un journal?
Dans le feuilleton de poste. Régulièrement, j'ai droit à leur une. En ce moment, ça marche pas mal, ouais.
Et votre dernière petite histoire?
Le dernier papier sur Macron, tout le monde dit qu'il n'a pas un programme, alors qu'il a un programme. D'ailleurs, l'article s'intitule « Macron a bien un programme, il est dans un classeur gris ». Et l'histoire du classeur gris, c'est ce qu'on remet en France à chaque nouveau ministre. Et à chaque fois, en fait, il y a à peu près, que le ministre soit de droite ou de gauche, il y a à peu près la même chose dans le classeur gris, dont une mesure emblématique, la suppression du SMIC, dont Macron rêve et qu'il fera peut-être un jour. Il ne le dit pas, mais c'est la réalité. Alors qu'en Angleterre, quand il y a un nouveau ministre, l'administration a deux classeurs pour lui, soit un rouge si le ministre est travailliste, soit un bleu si le ministre est conservateur. Et je trouve assez drôle qu'une royauté donne des leçons de démocratie à la France, qui a quand même coupé la tête de son roi pour se retrouver avec une aristocratie républicaine. Donc je parle du programme du Macron, qui est celui de la technostructure de Bercy, de ce centre-gauche, centre-droit un peu mou, voilà. Donc il a bien un programme.
Ah, c'est marrant, vous partez à chaque fois d'une petite anecdote comme ça.
Oui. J'en ai fait un aussi sur Mélenchon. Alors, on me l'a un peu reproché parce que je suis parti du décès d'un ami, la façon dont Mélenchon, qui prononçait l'oraison funèbre ce jour-là, s'est comporté, parce qu'il nous a pris en otage et il s'est amusé à faire le tri au sein des amis entre le bon grain et l'ivresse, ce qui ne se fait pas, surtout le jour d'un enterrement. Et je trouve qu'à la présidentielle, il se comporte un peu pareil. Donc, à partir de cette histoire d'enterrement, il y a un parallèle qui est fait sur Mélenchon dans la présidentielle. Voilà.
Oui, là, on entend tout. Ouais.
Ah, nous sommes en liaison avec l'Afrique du Sud.
Mélenchon et les enterrements, ici, vers le correspondant sud-africain. Donc, un correspondant donc, entre la mort et la vie post-mortem avec Mélenchon. Donc, quelque chose de christique. Hein, Mélenchon qui réussit à parler aux gens après la mort. Donc vous êtes en train d'essayer inconsciemment de nous faire voter pour lui. Et puis vous reprochez à Macron d'être mou. Mais qu'est-ce que vous avez contre le mou? Vous préférez le dur en politique?
Non, quand c'est dur, c'est toujours mieux, ça se sent mieux, mais le mou peut aussi avoir ses avantages, je l'avoue.
Il y a une certaine tranquillité, il y a une gentillesse dans le mou.
Non, il y a surtout, avec Macron, il y a surtout une escroquerie, c'est qu'il est un candidat qui veut la poursuite du système, pas son changement, et il arrive à se présenter comme le candidat de la rupture. Ce qui est fort avec Macron, c'est le marketing, en fait, parce qu'il arrive à se faire passer pour l'inverse de ce qu'il est.
Et vous-même, parlons de vous.
Moi-même, alors écoutez, moi je suis quelqu'un qui réfléchit, qui propose aux autres aussi de réfléchir à comment on pourrait sortir de cette offre politique où en fait on a un choix binaire qui est soit accepter un système qui est totalement déshumanisé, qui bousille la planète, qui enrichit de plus en plus une poignée de gens au détriment des autres, donc un système inacceptable, et une deuxième offre qui serait le nationalisme, où vous avez tous les problèmes du premier, plus la guerre, la xénophobie, le racisme, le sexisme. Comment on sort de ça? Et donc toute la réflexion, toute mon écriture, en fait, essaye de dégager une nouvelle voie, quelque part, d'un autre capitalisme qui serait humaniste, qui serait écologique. Un capitalisme qui existe d'ailleurs hein, dans l'Europe de l'Ouest. Parce qu'on a des valeurs,
excusez-moi, monsieur ouais. Mystérieux, Jacques Souvent, Edouard Baird, je suis obligé de prendre la parole car il y a ce qu'on appelle la pub qui va nous tomber dessus.
Pas, moi. Je ne comprends pas. Je fais de ma poche des appels en international. Je suis en bannière. Une tune et il y a un mec qui me dit je t'envoie de la pub, tout ça pour entendre Lindel, Nissan, Peugeot, Renault et vas-y, mon cul sur la commode. Non mais oh
Bah ouais.
Nous, on va continuer notre petite marche. Dans j'aimais bien monsieur Mystérieux, je voulais parler de ses rapports avec lui.
Ah bah restez là alors, à tout de suite. Il est 8h32 pile, l'heure des infos, Thierry Paré.
Quand vous êtes assistant parlementaire, vous pouvez être payé à tricoter. Bon, ce n'est pas moi qui parle ainsi, évidemment. Non, déclaration, pour le moins maladroite, de Florence Portelis, la porte-parole de François Fillon. François Fillon ou la stratégie du forcené. Le candidat de la droite a lui-même annoncé hier, lors d'une conférence de presse, sa convocation par les juges le 15 mars pour une éventuelle mise en examen dans ce qu'il convient d'appeler le Penelope Gate, avant d'annoncer le maintien de sa candidature. Une posture de plus en plus compliquée à tenir, hein, d'autant que certains de ses soutiens commencent à quitter le navire. Pour les centristes de l'UDI, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils ont décidé de suspendre leur participation à la campagne. En outre, les défections individuelles se multiplient. Bruno Le Maire a carrément annoncé qu'il quittait le staff du candidat. Le député Pierre Lellouche, lui, demande à la fois le retrait du candidat, mais aussi le report de l'élection présidentielle, ce qu'il aura sans doute du mal à obtenir. L'équipe de campagne de François Fillon étudie la possibilité d'organiser un rassemblement de soutien au candidat. Certains évoquent une marche dimanche au Trocadéro à Paris, à laquelle seraient espérées des centaines de milliers de personnes. Fait rare, les plus hauts magistrats sont sortis de leur silence. Dans un bref et acéré communiqué de presse, la Cour de cassation assure que la justice n'encourt pas plus les reproches outranciers qui lui sont faits, qu'elle n'a besoin de soutien d'où qu'il vienne. Il promet de ne pas modifier l'âge de départ à la retraite et de ne pas baisser le niveau des pensions. Emmanuel Macron va dévoiler son programme aujourd'hui, on en connaît déjà les grandes lignes. S'il ne souhaite pas modifier l'âge de départ en retraite, il souhaite toutefois mettre en place un système universel de retraite. Autrement dit, il veut mettre fin aux régimes spéciaux. Le candidat du Mouvement En Marche entend aussi, par exemple, interdire aux parlementaires d'exercer des activités de conseil. Il entend également suspendre le versement des allocations chômage après le refus de plus de 2 offres d'emploi qualifiées de décentes. Il envisage de créer 10 000 postes de policiers, 4 à 5 000 postes d'enseignants, de diviser par 2 le nombre d'élèves par classe au CP et au CE1. Il envisage aussi une prime de 3 000 euros net par an pour les enseignants en zone prioritaire. Ce ne sont que quelques exemples et détails dans la journée. L'armée syrienne est entré dans Palmyre hier soir. L'État islamique contrôle la cité antique syrienne inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Les djihadistes de l'État islamique avaient été chassés de cette ville il y a pile un an. Ils l'avaient reprise au mois de décembre. L'État islamique a saccagé et détruit d'importantes structures de la cité antique. Et pendant que l'armée tente de reprendre la main sur Palmyre en Syrie, l'État islamique, lui, tente de reprendre la main à Mossoul en Irak. Les forces gouvernementales irakiennes, soutenues par les États-Unis, ont repoussé une contre-attaque des djihadistes dans l'est de la ville. Une semaine à peine de débat aura suffi. Le Parlement philippin vient de rétablir la peine de mort qui était suspendue depuis 2006, un vote qui intervient alors que le très controversé président du pays, Ricardo Duterte, a annoncé vouloir relancer la guerre contre la drogue. Le texte adopté par les députés rend passible de la peine capitale la production et le trafic de drogue, mais pas la simple possession. Airbnb, en quête de bonne conduite, accusé de concurrence déloyale par les hôteliers, la célèbre plateforme de location touristique est désormais disposée à limiter à 120 nuitées par an les logements qu'elle propose sur Paris. Alors si vous connaissez bien Airbnb, vous savez que cette limite est déjà inscrite dans la loi. mais qu'il n'y a pas de contrôle. La nouveauté, ce sera le blocage automatique du site dès que le seuil autorisé sera dépassé. Un rebondissement dans l'affaire des disparus d'Orvault. 13 jours après la disparition mystérieuse de la famille Troadec, et alors que l'enquête était au point mort, le pantalon et la carte vitale de Charlotte, la fille de la famille, ont été trouvés dans un fossé par une joggeuse. Cette découverte a été faite près de Brest, à 250 km environ du lieu d'habitation de la famille disparue. On ne sait pas s'il y a un lien, mais il faut savoir que le père de famille était ou est originaire de Brest. Vous êtes entraîneur de foot et vous cherchez du boulot. Il y a un poste qui va se libérer. Si financièrement vous n'êtes pas trop gourmand, ça pourrait le faire. Le technicien du FC Barcelone, j'entends rien, Luis Enrique, en fin de contrat, a annoncé son départ à la fin de la saison. Et puis on connaît l'affiche des quarts de finale de la Coupe de France de football. Le PSG se déplacera à Avranches, Guingamp se déplacera à Fréjus, Angers recevra Bordeaux. Et enfin Monaco, qui a sorti Marseille hier soir 4 à 3 dans les prolongations, sera opposé au vainqueur de la rencontre ce soir entre Bergerac et Lille.
Mais il m'en fallait plus du foot, moi.
Ah,
allô?
Oh, oui.
Non, mais il me dit qu'il ne m'entend pas pareil. Moi, bonjour, monsieur. Je suis
il vous entendait très bien, cela dit.
J'entendais très
oui,
bien.
Bah, arnaque. Je suis en déplacement professionnel à l'étranger. Comment vous voulez, donnez-moi un peu plus envie de revenir vite en France. Vous me parlez de la mort de la gamine, ensuite j'ai des morts en Syrie, j'ai des morts partout, même Airbnb m'arnaque. Je veux un peu plus de foot, un peu de météo. Je veux dire, vous m'obligez à écouter Jean-Pierre Pernaut et son actualité régionale heureuse.
Et si, si vous nous donniez envie de venir près de
justement
vous.
Justement en Afrique du Sud.
Pas nous insulter non plus, attention. Hein.
Ah mon grand, je suis bien, je suis là. Je suis éventé par de beautés qui ont oublié leur bikini. Un baobab au-dessus de moi me fait un peu d'ombre. Des cascades de jus de mangue devant moi. La plage, du turquoise, du soleil. Et puis j'ai 20 piges, c'est mes plus belles années. Non, bah écoutez, je serais ravi de vous retrouver. En tout cas, le journal, il y avait une très belle tenue, Thierry, pareil. Il y avait une belle tenue, il y avait un vrai capitaine, il y avait un homme concerné. Moi, en tant qu'auditeur, je m'y retrouve.
Ben justement, Edouard, dans la continuité du journal, à l'instant, Thierry disait que la Cour de cassation avait émis un communiqué pour affirmer l'indépendance de la justice suite aux propos de François Fillon. Effectivement, hier, à midi et demi, François Fillon s'est défendu et sa défense était une attaque plutôt à l'égard de la justice et de son indépendance. Il se trouve qu'on est en lien par téléphone avec Benjamin Blanchet, qui est magistrat et qui est membre de l'Union syndicale des magistrats. Bonjour, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Comment vous réagissez à cette hypothèse qui a été clairement exprimée d'une justice qui a apparemment un agenda politique, puisque ça a été dit comme ça, même pas à demi-mot, par François Fillon, candidat à la présidentielle et ancien Premier ministre?
On a réagi avec de la consternation, parce que ce sont toujours les sempiternelles mêmes attaques totalement infondées qui sont portées contre la magistrature, qui va traiter cette affaire, comme elle le fait toujours, c'est-à-dire en toute indépendance et sans considération pour un quelconque calendrier politique. C'est ni plus ni moins la séparation des pouvoirs qui est en jeu.
Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'une période comme une campagne présidentielle ou la pré-présidentielle soit une période d'exception en termes de droit?
Ben absolument pas. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Alors, imaginez si la justice cessait de fonctionner 6 mois avant l'élection, 6 mois après, comme nous sommes toujours entre 2 élections en France. Ça voudrait dire qu'il faudrait appliquer ce type de régime à l'ensemble des crimes et délits en France.
Est-ce que vous pensez que ce type de propos peut instiller le doute, tout simplement, pour tous les citoyens à l'égard de la justice, si quelqu'un qui a justement été Premier ministre peut avoir ce type de propos? On a entendu parler d'expressions comme le coup d'état des juges, ce qui quand même, à la fois à un certain point et en même temps enlève un certain sens à certains mots, mais est-ce que c'est grave simplement qu'un grand responsable puisse avoir ce type de propos?
C'est extrêmement grave, ce sont des propos outranciers, d'une violence inouïe. On parle de coup d'État institutionnel, d'assassinat politique. C'est absolument extraordinaire d'entendre ce type de parole dans la bouche d'un homme qui se destine à la présidence de la République et qui aura en plus, parmi ses devoirs constitutionnels, à garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire. Ça paraît bien mal parti.
Alors, Benjamin Blanchet, donc je rappelle, vous êtes membre de l'Union syndicale des magistrats. Est-ce qu'on peut imaginer que la personnalité d'un juge, en l'occurrence, il s'agit du juge Tournaire, ce qui concerne François Fillon, puisse modifier la manière de faire de la justice? On dit que le juge Tournaire est un dur à cuire, c'est comme ça qu'il est présenté ce matin dans les médias. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Est-ce que ça joue?
Et non, ça ne joue pas, parce que un juge ne statue pas en fonction de ses éléments personnels, de ses goûts, de ses convictions.
Le juge Tourneur est un juge expérimenté, compétent, impartial, et c'est tout ce qu'on lui demande. En plus, il est courageux, et ce sont des qualités qui sont totalement indispensables. L'actualité le démontre pour traiter les affaires sensibles que nous connaissons.
Merci beaucoup, Benjamin Blanchet, membre de l'USM, qui nous est pour nous éclairer justement votre voix de magistrat à l'égard de ce qui a été dit hier par François Fillon. Merci, bonne journée.
Au revoir.
Alors, je cherchais une transition, j'en ai pas trouvé, mais je voulais simplement vous annoncer que on écoutera le live de Aniel Katib dans quelques minutes maintenant, depuis la Verrière Nova à côté, et que vous pouvez suivre ce live sur Facebook Live, hein, si vous n'êtes pas présent.
Est-ce qu'il y aura d'autres choses comme des jeux ou des trucs? Il y a bien.
Oui, Atmen, on va faire ton jeu.
Oui.
Oui.
7h-9h, plus près de toi.
Nova, plus près de toi.
7h-9h.
Ça sent le café, la tartine.
Ça sent aussi la transpiration dans ce studio.
Oh, bah c'est gentil.
Ça n'était pas dans le jingle, mais il faut que je le dise.
Non, mais c'est les croissants.
C'est les croissants.
C'est les croissants, ils suintent du beurre.
À la demande générale d'Atmen Khelif, un petit jeu.
Ouais.
C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit?
Charlène, vous nous rappelez le principe du jeu?
Vous écoutez des sons, vous essayez de me dire ce que c'est. Si vous avez bon, je vous dis bravo. Si vous avez pas bon, je vous dis pas bravo.
J'ai compris. Alors, premier son.
C'est le chouette.
C'est un petit canard.
C'est un oiseau.
C'est un bébé canard.
C'est mignon, mais non.
C'est un canard poussin.
Est-ce que c'est un animal?
C'est la première synthèse électronique du son.
C'est un tire-bouchon qui rentre dans un bouchon.
Non.
C'est on frotte une vitre avec un chiffon humide.
Ah oui. Bravo, Armel.
C'est ça?
Oui,
c'est
ça.
J'ai gagné quoi?
Rien.
Bravo.
Un bisou.
Ok, alors, la suite.
Une porte qui s'ouvre, une partie
de ping-pong.
Non.
On n'a pas dit. Est-ce que les auditeurs peuvent jouer chez eux? Parce qu'on ne l'a pas précisé.
Non, surtout pas.
Ils peuvent jouer chez eux, mais ils ne sont pas obligés de nous appeler.
Voilà. C'est une boule, quelque part.
C'est
mais
un truc qui revient.
Boule de flipper.
Jokari.
C'est un flipper à l'intérieur.
Non.
Presque.
Ça va et qui revient.
C'est l'œuf qui tombe sur la tronche à Macron.
C'est un jokari.
Non.
Pardon. C'est un jokari.
Le mystère est entier, là, on ne sait pas quoi.
C'est une bille de bois.
C'est un baby-foot.
Oh, mais j'ai dit un flipper.
Ah, bah oui, mais c'est
pas la même chose.
Ah, pareil.
Bon,
merci,
alors.
Je sais ce que c'est, un flipper et un baby-foot.
Pour l'instant, je gagne. Ouais.
Oui.
Un fouet,
un boomerang.
Oui, un boomerang, bravo.
Comment
j'avais frisbee.
Vous avez reconnu un boomerang.
Bon, ben voilà, non, je pense qu'on s'est bien amusé.
Très très bon moment, c'est le moment détente.
Est-ce que quelqu'un peut faire un bruit à la bouche qu'on essaiera de...
Moi je le refais encore une fois, c'est quoi ça? C'est le vaisseau qui passe à côté...
C'est un humain qui fait un bruit.
Non, c'est un vaisseau qui passe à côté de l'étoile noire, voilà.
Jack, au secours.
Oui, vous vous amusez bien. Hein.
Bah oui.
Moi, je suis resté avec Malik Lounès dans le bois, parce qu'on a plein de choses intéressantes à se dire. Il me disait que ce qui était bien dans notre émission, écoutez bien, c'était qu'on prenait le temps de rire. Prendre le temps, c'est quand même quelque chose de...
Et si on prenait le temps de rire tous ensemble, oui. Là, pendant une minute?
Prendre le temps.
Non, mais c'est la marque de fabrique. C'est vrai qu'on rigole pas beaucoup et tout le monde, pourtant, est preneur de rire, quoi. Mais pour rire, il faut avoir l'esprit un peu décalé, il faut avoir le temps, il faut avoir un regard sur les choses un peu différent. Sinon, on rigole pas.
C'est vrai.
Qu'est-ce qui vous fait rire, monsieur?
Ah, moi, tout me fait rire. J'ai plein de rires. Je sais rire jaune, je sais rire de bon cœur, je sais rire ironique. Je mélange les rires. Hein.
On vient de croiser quelqu'un qui était en train de rigoler.
Ouais.
C'est une dent,
par exemple.
Pardon?
Ça, c'est quel rire?
Ça, c'est un ricanement.
Et un rire gras, vous savez?
Un rire gras, ouais. Ça, je suis moins fort pour le rire gras. Il faut une bonne grosse vanne de cul, bien trash, pour arriver à me faire rire gras.
Non, Atmen, voilà, non.
Mais je n'ai rien dit. Non. Attendez, les gars, je n'ai rien dit.
Un petit ricanement aussi.
Il va me prendre pour Philippe Bouvard, les gars. C'est bon, j'ai rien dit.
Bah, il rigole, hein, Bouvard. Hein. Il est con, mais il rigole.
Ah, d'accord. Bah, voilà. Je crois que monsieur aime rire.
On se revoit au tribunal.
Au tribunal,
bah, oui.
On rigolera bien.
Bon, bah,
voilà,
si
vous... donc là, on continue, mais plein d'autres choses intéressantes à dire. Plein de... Ici, il y a pas mal de joggers. Le soleil, il fait très beau.
C'est au parc Montsouris, c'est ça?
Montsouris, les gens sont au téléphone, des gens nous regardent. Voilà,
déjà, le mot Montsouris, Montsouris.
Avec des casques. On est juste en haut d'un escalier où les gens montent, ils sont un petit peu essoufflés. Parce qu'ils se dépêchent, il faut aller prendre le RER, ils traversent le parc pour aller prendre le RER de l'autre côté. Là, il y a un couple d'Asiatiques qui s'avance vers nous. Voilà, une jeune femme au manteau rose avec du rouge sur les ongles.
Il fuit.
L'autre femme avec un baladeur. Il y a beaucoup de gens. En fait, moi, je me rends compte quand je marche comme ça, c'est que les gens ont beaucoup de baladeurs, beaucoup de casques. Donc, à chaque fois que je dis bonjour, il y a toujours ce temps où on retire le casque. Ça, c'est le temps intéressant. Et puis là, une dame qui se touche le front.
Mais pourquoi ?
Madame, vous avez la tête où ce matin ?
Pourquoi elle fait ça ?
Parce qu'elle a deviné l'enquête, bon sang, mais c'est bien sûr.
Vous avez la tête où ? Elle m'attrape le micro, elle m'attrape le bras, elle m'a empêché. Bonjour, vous avez la tête où ce matin ?
Dans les nuages.
C'est super beau ça. Vous avez la tête où, vous, Atmen, ce matin ?
Moi, j'ai la tête en Afrique avec Edouard, il me raconte des trucs et j'ai envie d'y être.
À Johannesburg.
À Jobourg, on vous l'a déjà dit, à Jobourg.
À Jobourg avec Herbert.
Je crois qu'Edouard Baird est en ligne avec nous. Edouard ?
Salut, vous avez envie d'être avec vous ?
Oui.
On se retrouve demain, non parce que c'est vendredi, mais lundi, je suis à Paris avec vous, avec énormément de plaisir. Je vais finir mon tournage, là, c'est ce qu'on appelle le gros plan. Oui. C'est-à-dire que la caméra est d'une façon indécente sur moi. On verra la moindre de mes émotions. Et si j'ai un coin de ma tête qui pense à Nova, je vais être viré du cinéma français.
Oui.
Je vous embrasse. Salut à tous les
Vous faites deux films maintenant, Edouard, le premier et le dernier.
C'est très bien, merci. Il est à l'heure. Alors, ça, ça
arrive. Ah oui,
ça rigole. Ça vous êtes content. Tout de suite, avant de partir, je demande à mon réalisateur Thomas Dijol, si ça, est-ce qu'à votre avis, ça a dérangé le tournage que j'étais un peu à Nova ce matin ?
Non, les rushs donneront la sentence, mais je pense qu'on a, on a un comédien exceptionnel qui a des ruptures radiophoniques et cinématographiques en quelques centièmes de seconde, et c'est rarement vu dans le paysage culturel français. Le résultat s'annonce soit gigantesque, soit catastrophique.
Merci Thomas Dijol. Salut, très bonne journée à tous.
Très bonne journée.
Et à lundi, Edouard.
À lundi. Bisous.
Nous restons ensemble encore une dizaine de minutes avec le live de Annie El-Khatib juste après la pub.
7h, 9h, plus près de tout.
À 8h52, nous sommes en duplex avec le Grand Café Nova où se prépare le live du jeudi matin. Atmen Khelif.
Oui, je suis là avec Rudy et l'orchestre, enfin l'artiste surtout.
Bonjour Rudy.
Nova, vous êtes là ? Oui ou non ? Oui. Donc il y a du monde. Je passe le micro à Rudy.
Qu'il est curieux, bizarre et malheureusement pas surréaliste de se dire que sous le gouvernement actuel américain, les parents de Annie El-Khatib, respectivement palestinien pour son papa et philippine pour sa maman, n'auraient jamais pu se rencontrer. Je suis désolé de vous plomber comme ça à 8h50 du matin, mais c'est aujourd'hui une triste réalité. Nous vivons des temps étranges. C'est cette époque étrange, terriblement égoïste, qui a conduit Annie El-Khatib à bousculer ses habitudes, revenir à un processus créatif bien plus impulsif, spontané, au plus proche de son public, aller chercher une liberté qui se perd peu à peu. Quelques jours après les attentats du 13 novembre à Paris, Annie est partie s'enfermer à Long Beach, Californie, pour enregistrer dans l'urgence une collection de 5 volumes intitulée Savage Times. Pas besoin de traduire, des morceaux délivrés, balancés tour à tour sur Internet, un morceau en appelant à chaque fois un autre. C'est donc cette série de morceaux, plus des inédits, regroupés sous le titre Savage Time Collection, que s'apprête à sortir ce gentil mauvais garçon qui, pour la première fois, s'est mis à écrire sur lui pour les autres et non l'inverse. Je vous rassure, le plus important, c'est que sa musique sent toujours autant la sueur et le rock'n'roll le plus brut, le plus pur. Il est avec nous ce matin, très très loin de l'acoustique habituelle, en guitare, basse, clavier, machine, accompagné de Nick, Nathan, Johnny et Annie à la voix. Ils vont nous interpréter 3 morceaux. Le premier s'intitule « Paralyzed ». Annie, welcome. Thanks to be there.
It's time for us to play.
It's time for it. Paralyzed, Annie El-Khatib. Vous retrouvez ce morceau sur la compilation des 5 EP Savage Times. Another one? This is No Way?
Okay, next one. All right.
On a le temps pour un deuxième titre à l'antenne. Annie El-Khatib en direct sur Nova. Vous pouvez suivre la suite, un troisième morceau sur Facebook Live. L'émission s'arrête là pour aujourd'hui.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.